Léa Salamé, votre invitée ce matin est ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2007, ancienne ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, actuelle ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique.
Quel titre !
Voilà.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Dialogue de sourds, titre Le Figaro. Macron a entendu mais n'a pas répondu à la une du Parisien. Déconnecté, dit l'humanité. Les journaux de ce matin sont-ils excessifs dans leur critique du discours d'Emmanuel Macron hier? Sont-ils injustes?
Je ne crois pas. Je pense qu'ils voient assez bien les choses. On attendait des décisions pour rétablir la paix, pour rétablir l'harmonie que la France mérite, pour rétablir la sécurité des fins de mois et pour garantir la sécurité de l'avenir de la planète. Est-ce qu'on a eu une réponse à ces quatre objectifs? Je ne le crois pas.
Je sais que les habitués de la politique attendent de moi un renoncement, une esquive, a-t-il dit. Il n'y en aura pas. Emmanuel Macron ne reviendra pas sur la hausse prévue sur les carburants parce que, dit-il, on n'est pas écolo le lundi et on change d'avis le mardi. Il faut une cohérence. Mais il accepte le principe d'une taxe flottante, c'est-à-dire que la fiscalité sur l'essence soit adaptée en cas de flambée du pétrole. Est-ce que c'est déjà un premier pas que vous saluez ou pas assez?
D'abord, sur la première partie de votre question, c'est-à-dire sur la méthode, il y a quand même une contradiction à dire qu'on ne changera pas de cap et à reconnaître qu'il y a eu un grave déficit de dialogue. C'est le point positif de l'intervention d'Emmanuel Macron. Il a reconnu un déficit dans la méthode. Mais si la méthode a été déficitaire en dialogue, c'est donc que la solution qui a été trouvée, à savoir le matraquage par les taxes, est mauvais également. Donc normalement, on en déduit qu'il faut retirer la décision puisque la méthode a été mauvaise. On remet à plat la méthode et ensuite on change la décision.
Comment vous expliquez
donc il reste au milieu du gué.
Comment vous expliquez qu'il ne change pas d'avis? Vous dites... c'est un truc de mec.
Parce que je
si
pense
vous l'avez dit avant de rentrer dans le studio, donc je le dis.
Qu'il y a des, parfois, chez certains, je dis ça, il y a une forme d'exercice qui me frappe. Hein, il y a une
je
forme
vous cite un truc de mec.
Je le dis dans mon livre, d'ailleurs, je décris cette forme d'exercice du pouvoir que l'on a vu aussi pendant les quinquennats précédents, où il est très difficile dans un aéropage d'hommes, le premier qui disent, bon, on s'est trompé, on va peut-être rectifier les choses. Les femmes ont beaucoup moins de difficultés à rechercher des compromis, à écouter et à atterrir sur quelque chose qui ressemble à du bon sens.
Oui, après, paradoxalement, on pourra vous dire que l'écotaxe, vous avez renoncé dès que les bonnets rouges étaient dans la rue, que ça nous
mais
a coûté des centaines de millions d'euros à rembourser.
Absolument
et que,
pas.
Et que ça s'appelle un recul mais, aussi, un renoncement.
Mais oui, mais est-ce qu'il vaut mieux bloquer le pays pendant des mois avec le coût économique, social et environnemental que ça représente, ou au contraire prendre acte du fait qu'une réforme qui avait été d'ailleurs signée par Fillon-Bussereau est mauvaise, est injuste, est absurde, et donc lui substituer quelque chose de différent. Et contrairement à ce qui est répété à longueur d'antenne, il n'y a pas rien eu, puisque les camionneurs ont préféré 4 centimes de taxes par litre de gasoil, les camions, à la place de l'écotaxe, qui était complètement absurde, qui était une privatisation de l'impôt aux mains d'une entreprise italienne. Ça veut dire, revenons à la méthode,
oui.
C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait parfaitement la possibilité de dire, puisqu'il faisait le constat d'une mauvaise méthode, de dire, puisque c'est ça, on retire les taxes, on remet à plat les choses et on regarde ce qui se passe.
Vous lui demandez encore ce matin de faire
ça? Mais bien sûr, c'est la seule chose qui puisse appeler. On ne peut pas dire à la fois que la méthode a été mauvaise et continuer comme si de rien n'était.
Et la taxe flottante, c'est pas un premier pas?
Alors, la taxe flottante, il dit que c'est une taxe flottante tous les trimestres et qu'il faudra à chaque fois un vote du Parlement. Mais la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité des prix du brut, c'est-à-dire le mouvement est parfois hebdomadaire et parfois quotidien. Donc je crois que c'est reculé pour ne pas mieux sauter.
Sur la méthode toujours, mea culpa sur la verticalité, éloge des corps intermédiaires, création d'un conseil pour le climat et surtout Emmanuel Macron lance une grande consultation de terrain pendant 3 mois avec les élus locaux, avec les experts, avec les élus de terrain. Est-ce que vous y voyez un hommage à la démocratie participative à laquelle vous tenez tant?
Oui, d'une certaine façon, mais il aurait fallu le faire avant. Je dis par là que les solutions, on les connaît maintenant. Donc ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Car qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans ce qui a été annoncé hier? C'est uniquement le nucléaire. Tout le reste existait déjà dans les textes. Le charbon, les fermetures des centrales à charbon sont déjà dans l'actuelle programmation pluriannuelle de l'énergie. C'était prévu pour 2023, là il dit 2022, mais c'est la même échéance. Ce qui manque, c'est les moyens pour transformer ces centrales à charbon en centrales biomasse. Donc ça, c'était déjà dans la loi de transition énergétique. La multiplication par 3 et par 5 des énergies renouvelables, photovoltaïques et éolien, c'est déjà dans la loi de transition énergétique, puisque l'objectif, c'est 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Donc là, rien de nouveau. c'est dans la loi de transition énergétique. Le passage de 5 milliards à 7 milliards des aides aux énergies renouvelables, c'est déjà dans la trajectoire. Donc la seule chose
nouvelle... On va y venir sur le nucléaire. Encore un mot sur les gilets jaunes. Ils appellent à une nouvelle manifestation samedi. Quand on a vu les scènes sur les Champs-Élysées samedi dernier, est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous dites continuez à descendre dans la rue, continuez à mettre la pression?
Je pense que c'est une désolation pour la politique, ce que l'on voit. On n'a pas le droit de lancer, de perturber comme ça un pays, de semer le désordre avec des décisions politiques qui mettent les Français en rage. Parce qu'il n'y a pas eu que l'augmentation des taxes sur le pétrole, il y a eu l'augmentation aussi des taxes sur l'énergie. C'est scandaleux que les prix du gaz augmentent de 14 à 16%. C'est scandaleux.
Qu'est-ce qu'il peut
faire? Pardon de le dire, j'étais ministre de l'énergie, les prix de l'électricité et du gaz n'ont pas augmenté parce que je protégeais les consommateurs. Il vaut mieux que le pouvoir d'achat des consommateurs aille à la consommation pour créer des activités et des emplois que partent dans les hausses des taxes de l'énergie nullement justifiées de la part d'entreprises qui font beaucoup de profits.
Quand on voit ça devait être l'automne du pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron. La taxe d'habitation et la baisse des cotisations salariales qui entrait en vigueur là, en octobre. Et finalement, il se prend cette fronde dans la rue. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus en vrai?
Mais parce que les Français sont intelligents et ils voient bien que ce que l'on donne d'une main est repris de l'autre. Ils voient bien que les taxes sur l'essence et toutes les taxes qui leur arrivent sur la tête sont faites pour payer la suppression de la taxe d'habitation et donc elles sont beaucoup plus injustes. Il valait mieux réformer une taxe d'habitation pour la rendre plus juste que de frapper aveuglément les Français qui voient en plus que le kérosène des avions et le fioul lourd des bateaux et des yachts n'est pas taxé.
Jean-Luc Mélenchon.
Ils voient bien aussi qu'on leur reprend, et notamment sur les petits salaires et les petites retraites, ce qui a été donné en suppression de l'ISF pour les grandes
fortunes. Alors justement,
Jean-Luc Mélenchon a réclamé hier
de revenir sur l'ISF. Est-ce que vous demandez la même chose, vous aussi?
Je pense qu'il faut une remise à plat totale de la question fiscale et de la question de la fiscalité pseudo-environnementale.
Mais
on n'a pas le droit d'utiliser l'écologie pour faire des impôts. Parce que quand on fait ça, on frappe à la fois la confiance dans la fiscalité et le positif dont on a besoin pour réussir
la transition énergétique.
Il faut une mise à plat globale.
Il faut revenir sur l'ISF.
Parce que je pense qu'il ne faut pas, brutaliser, schématiser et dire il n'y a qu'un faucon. Je pense que ça a été une faute grave au départ qui n'a pas été comprise des Français puisqu'il n'y a eu aucune compensation. Et donc, il faut la mise à plat de la fiscalité, dont cette question-là, bien évidemment.
Alors le nucléaire, réduction à 50% en 2035, fermeture de 14 centrales d'ici là, sans donner de date précise, Dominique Sulla l'a précisé, à part pour Fessenheim qui fermera à l'été 2020, plus pour les renouvelables. Pas d'abandon de l'EPR qui, je cite Emmanuel Macron, fera toujours partie du bouquet énergétique. C'est une formule floue, on ne sait pas s'il va construire ou pas de nouvel EPR. Comment vous jugez ces arbitrages sur le nucléaire? Réaliste et pragmatique ou insuffisant?
Le lobby du nucléaire l'a emporté. Et je trouve ça désolant. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la fermeture de Fessenheim était déjà actée. Puisque c'est moi qui préparais le décret, qui l'ai signé. Ça veut dire que rien de nouveau n'a été décidé. La fermeture de Fessenheim était déjà actée. Qu'est-ce qui a été annoncé hier? C'est quand même le report de 10 ans de la baisse de la part du nucléaire. C'est-à-dire on passe à l'horizon 2025 à 2035. 10 ans. Ça veut dire que...
Même Nicolas Hulot a reconnu que ce n'était pas tenable 2025.
Mais avec quel argument? Nicolas Hulot a dit cela, mais il ne l'a jamais prouvé.
L'argument du coût économique.
Mais j'ai jamais vu un argumentaire sérieux pour expliquer que ce n'était pas possible. Vous savez, en politique, quand on commence à dire que ce n'est pas possible, c'est mal parti. Parce que si on met en cause des choses qui sont votées par les lois, et souvent au-delà des clivages politiques, c'est assez grave. Parce que là, il va falloir rouvrir le débat parlementaire uniquement pour changer cette échéance. Qu'est-ce que ça veut dire, le report de 10%? Ça veut dire trois choses. D'abord que pendant le quinquennat, il n'y aura aucune décision à prendre. Donc c'est une forme de confort, c'est-à-dire toutes les questions difficiles, on les repousse pour après. Deuxièmement, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans la montée en puissance des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, puisque la baisse de la part du nucléaire de 70 à 50% était obtenue par quoi? Par la montée en puissance du renouvelable et des économies d'énergie. je rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous produisons en énergie renouvelable, grâce à la loi de transition énergétique, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Et que si on réussit l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires.
Qu'est-ce qu'il aurait dû dire qui vous aurait semblé convaincant? Mais
maintenir ce qui était dans la loi.
C'est donc l'horizon. 2025, c'est
mais
ça?
Mais bien sûr, et on aurait très bien pu attendre. On voit en 2022, on fait tout ce qu'il faut pour monter en puissance sur le renouvelable. Parce que là, on déstabilise toutes les filières industrielles qui se disent finalement, l'État ne croit plus dans notre capacité à monter en puissance. Donc il était toujours temps en 2022 de repousser l'échéance. Et par ailleurs, contrairement aux mensonges que j'entends, il n'y a pas de coup près en 2025. J'avais pris soin de mettre l'horizon 2025, c'est-à-dire de pouvoir jouer sur quelques années et voir le moment venu de repousser cette échéance. C'était très pragmatique.
Ségolène Royal, la femme la plus difficile à couper de l'histoire.
Voudrais dire une dernière chose. C'est le danger pour la sécurité nucléaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de repousser de 10 ans? Ça veut dire maintenir des réacteurs nucléaires qui ont plus de 40 ans. Ça veut dire des investissements massifs en termes de sécurité. Est-ce qu'il vaut mieux investir pour les Français?
Mais non, mais c'est de grâce.
C'est important.
Et en plus, je suis obligée de poser. Non, on ne peut pas poser. Et non, vous faites quoi pour la planète en 10 secondes? En 10 secondes, c'est la question qu'on pose à tous
qu'est-ce
les
gens. Qu'est-ce que je fais? Je rétablis le crédit d'impôt de transition énergétique.
Non, en tant que citoyenne, vous fermez les lumières.
Je fais attention à la consommation d'énergie. Je chauffe à 18 degrés.
Merci, Ségolène Royal. Et
surtout, j'aurais rétabli le crédit d'impôt de transition énergétique.
Merci.
Et les TEPCV, Territoire Énergie Positive. Voilà, j'ai tout dit.
Merci Léa. Et à tout à l'heure.